Lendenois, deuxième partie, et on reste en Méditerranée.
Oui, mais là, on redescend vers le sud.
On traverse la Méditerranée.
La Méditerranée et on arrive en Algérie, qui était en France d'ailleurs. Ça s'appelle Alger la Noire. C'est un livre de Maurice Atia, qui est psychanalyste. Et c'est paru chez Babel Noir, donc c'est une collection de poches qui renaît là depuis 2-3 mois, qui avait un peu cessé de paraître. Et là, il y a une nouvelle directrice de collection. Et voilà, ça vaut 9,50 €.
C'est en fait, c'est les éditions Actes Sud.
C'est les éditions Actes Sud et Babel Noir. Babel, c'est la collection de poches, et Babel Noir, donc c'est la collection de poches et de romans noirs. Et c'en est un, effectivement. Donc c'est Paco Martinez. Là, je peux même le faire avec le véritable accent. Oui, Paco Martinez, qui enquête avec Maurice Choukroun, son adjoint, sur un double meurtre commis sur une place d'Alger. Estelle et Mouloud sont retrouvés nus et sans vie par des gamins qui jouaient sur la plage. Une enquête qui, évidemment, pourrait être assez banale si elle ne se déroulait pas à Alger, et surtout à Alger entre janvier et juin 1962, c'est-à-dire les derniers jours
de l'Algérie française.
De l'Algérie française, exactement. Le corps de Mouloud est mutilé. Je ne dirai pas comment vous le lirez. Et on a inscrit OAS à la pointe d'un couteau sur son dos. Tout porte à croire, évidemment, pour les flics du coin qui ne sont pas très portés à cause des événements sur les enquêtes un peu approfondies, que c'est un meurtre raciste perpétré par une quelconque faction de ce qu'on pourrait appeler des groupuscules fascistes menés par l'OAS, bien que je suppose qu'ils ne voudraient pas qu'on leur attribue ce qualificatif. Mais Paco Martinez, lui, ne s'en laisse pas compter et il va enquêter vers la famille de la jeune fille. C'est là qu'il va diriger ses premières investigations. C'est une famille un peu bizarre. La mère, qui est bien plus jeune que le père, elle a quitté, elle vit à Paris avec un amant. Donc il se dit qu'il y a peut-être quelque chose de trouble. Et il n'y a pas que ça de trouble, car ces derniers jours de l'Algérie française sont plus que troubles, sont même parfois un peu glauques. Et il doit passer, pour faire son enquête, et débusquer le coupable, il doit passer au travers des tirs de ce qu'on n'appelait pas les snipers, mais qui en étaient, au travers des bombes qui pètent un peu partout, soit par le FLN, soit par l'OS, soit par les barbouzes, enfin bref, c'est pas les poseurs qui manquaient. Son adjoint même sera descendu là par l'OS, et ce sera même... dit dans la radio pirate de l'OS pour leur prétendue traîtrise. Quoi. Donc, c'est pas l'OS, il était traître. Donc, évidemment, la Choukroun, pof, il avait décidé de quitter l'Algérie pour rentrer en France. Hop, traître, on meurt. Et donc, quand l'adjoint est descendu, c'est sa maîtresse, la maîtresse de Paco, Irène, qui a une magnifique Studebaker. Donc wow. super belle voiture, donc qui se fait remarquer. Et elle va l'aider parce que Paco est complètement désemparé par la mort de son copain. Et donc il se retourne vers sa maîtresse et elle l'aide un peu à enquêter. Paco aussi a une autre femme dans sa vie. C'est sa grand-mère, qui est une Espagnole, qui l'a élevée. C'est une réfugiée de la guerre civile d'Espagne, comme il y en avait beaucoup à cette époque en Algérie. Étonnamment, d'ailleurs, des réfugiés espagnols sont devenus français. C'est ce qui faisait la grandeur à un moment de ce pays. Voilà, c'est un magnifique roman dont toute la force vient en fait de la tragédie vécue quotidiennement par tous les protagonistes de l'affaire. Et finalement, ce qui donne une espèce de puissance au roman, c'est que même les pires salopards, et il y en a, subissent aussi les atrocités quotidiennes
pas euphémisme.
Bel euphémisme. C'est une histoire noire, à la fois simple, extrêmement poisseuse. Bon, en fait, c'est une famille décomplée dans laquelle passaient des choses. Je ne trahis pas les romans parce qu'on s'en aperçoit assez vite que ça va venir là. C'est une histoire qui frappe directement, qui est racontée de l'intérieur, qui frappe directement au cœur. Et il y a aussi, il y a beaucoup de scènes aussi où Paco et Irène se réfugient dans le sexe pour exorciser toutes ces angoisses comme le dit lui-même à un moment Paco, c'est l'alliance classique de Eros et Thanatos. Mais c'est vraiment, c'est un livre qui m'a beaucoup impressionné, peut-être aussi parce que bon, à cause de mes origines, j'ai eu un peu l'occasion de vivre ça, mais et en plus c'est un super beau roman et le style est très simple mais efficace. Il y a quelques expressions
algéroises,
mais bon, on peut pas s'en empêcher. Les gens ils parlaient comme ça à l'époque et toujours maintenant d'ailleurs certains.
Voilà, donc
je rappelle Alger la Noire, évidemment titre un peu provocateur, de Maurice Atia, paru chez Babel Noir.
Et là, on repart aux États-Unis. On est resté, non, avec Franz Jeuch.
C'est en anglais.
Désolé.
Il est même gallois, je crois que si. Alors, je ne sais pas qu'il n'écoute pas, parce que si tu dis qu'un
gallois
si est américain, il ne sera pas très
qui
content.
Est américain, ça,
c'est
sûr.
Vieux monsieur, d'ailleurs, il a plus de 80 ans. Il s'appelle Bill James et il a écrit ce roman en qui est paru en Angleterre en 1889 et qui est paru cette année.
Non,
1989.
Oui, peut-être que c'est un vieux monsieur, mais paru en 1889, ça le faisait quand même très, très vieux.
Et qui est paru chez Rivage Noir cette année, Frangeux. C'est traduit par Daniel et Pierre Bondil et ça vaut 9 euros. Alors, c'est le sixième épisode d'une série consacrée à un couple de policiers, Harper et à Hiles. Et qui nous plonge dans le monde ambigu des truands et des flics. Le personnage qui fait le lien entre ces deux mondes, c'est Sarah Hiles, épouse de Demons Hiles, l'adjoint au chef de la police, qui fuit l'échec de son mariage dans le lit de Yana Stone. Vous imaginez la femme du deuxième flic de la ville dans les bras d'un truand. On peut cogiter alors sur toutes les hypothèses de lecture possibles. Manipulant des uns contre les autres, vengeance de l'un, le mari, contre les autres, les bandits. Personne ne va jouer franc jeu. Surtout que l'épouse volage a la malchance de se trouver avec son amant dans un club de réputation douteuse, le Monty, le mauvais soir. Ce soir-là, en effet, un jeune homme est entré, est tombé après avoir fait quelques pas, tandis qu'une tache de sang s'élargit rapidement la poche de poitrine de sa veste. Elle s'est portée à son secours, il lui a glissé quelques mots avant qu'il soit emporté manu militari par quatre malfrats. Le monde des truands est en ébullition, une ouvre des gangs se prépare. Bon, l'histoire n'est pas très nouvelle, mais on se régale surtout de la façon dont Bill James, l'auteur, nous montre les ambiguïtés de la société anglaise, à la fois très polissée, très tasse de thé avec le petit doigt en l'air, et à la fois complètement corrompue et violente. Bill James est un auteur à part par rapport à ce qu'on connaît du roman noir anglais. Il ne raconte pas vraiment la violence, mais il la suggère avec une causticité très réjouissante. Et d'ailleurs, l'intérêt du livre, je trouve, ne tient pas tellement à l'histoire, quoi qu'on peut imaginer le pire, c'est-à-dire qu'il utilise sa femme comme appât pour attraper les bandits, quoi. Mais c'est surtout dans le style, c'est un homme de mots, et qui mixe le cocu des phrases d'une noirceur étonnante. Alors j'en ai relevé quelques-unes. Un dialogue entre son collègue Harper qui compatit sur l'infortune conjugale de son chef. Alors il dit, ça doit être éprouvant pour vous, chef. Réponse du chef. C'est tout ce que vous trouvez de mieux à dire, espèce de trou du cul mal fini. Nous parlons de perdre une épouse, pas d'appartenir au parti travailliste. Plus loin, de toute façon, même si ceci est vraisemblable, ce n'est qu'une hypothèse, n'est-ce pas, chef ? Réponse du chef. La mort du condamné par pendaison était une hypothèse jusqu'à l'ouverture de la trappe, répondit l'adjoint. Et l'autre, c'est encore une de vos citations à la con, Desmond. C'est encore Wittgenstein, je parie. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Et enfin, la description d'un type, ça m'a pas surpris. Il dit, il avait l'air d'un psychophile qu'on vient d'acquitter parce que les mots m'étaient trop traumatisés.
C'est très anglais, ça.
Voilà, c'est complètement anglais, c'est très très noir. Très très noir, c'est d'une méchanceté extraordinaire. Donc ça s'intitule Frangeux, de Bill James, c'est chez Rivage Noir.
Et donc tu as dit que c'était le sixième
d'une série autour de Harper et Hiles, et voilà. Les autres ont déjà
parlé. Les cinq autres sont dans la même collection à Rivage Noir, voilà, depuis quelques années, ils suivent complètement cet auteur. Un petit peu de musique
pour s'évader
de toute cette noirceur.
On reste dans le rhythm and blues comme dans la première partie, mais ce coup-ci avec un groupe français qui porte pourtant un nom anglais.
Alors c'est pas des Américains, non?
Non, c'est des Français, ils sont de Normandie. Hein.
De Rouen,
voilà. C'est les Dogs, le morceau s'appelle Charlie was a good boy.
C'est très normand.
C'est très normand. Ils chantaient en anglais la plupart du temps.
Oui.
Charlie was a good boy, le premier 45 tours qu'ils aient enregistré. Et là, il est paru par contre sur leur second album, qui était un album vinyle à l'époque.
Tu dis 45 tours parce que c'était il y a quelques années.
C'était il y a
quand
quelques
même.
Années, en 77, hein, en plein ponctitude. Et eux, ils avaient un peu dépassé le ponctitude. Et donc le morceau, je viens de le dire, s'appelle Charlie Was a Good Boy.
Et voilà, après,
bien que le CD soit remasterisé, le son, comme vous avez pu le remarquer, est d'époque. Hein,
ouais.
Mais ça fait du bien d'entendre des bonnes guitares.
Ben, nous, on va partir de l'autre côté, non pas de la Méditerranée cette fois, mais de l'Atlantique. Puis on va aller très loin, puisqu'on va aboutir à La Havane.
À Cuba, dont on parlait tout à l'heure, un petit peu au début.
Voilà, donc on est dans le Cuba actuel. Et le personnage principal, c'est le personnage principal vit à La Havane et elle est institutrice pour enfants handicapés. Et je viens de me rendre compte que j'ai carrément même pas dit le nom de l'auteur ni le nom du livre. Donc le livre est de José Cour, qui est né et a vécu à Cuba très longtemps, à La Havane même. Et le livre s'appelle Nos amis de La Havane, c'est collection Thriller des éditions du Rocher. Donc je reprends. Elena, personnage principal, vit à La Havane et elle est institutrice pour enfants handicapés. On comprendra au milieu du roman pourquoi elle a choisi cette carrière. Elle vit dans un appartement, son seul luxe en fait, qui est un appartement légué par son père. Quand je dis légué, c'est pas que son père soit mort. Son père, c'est un ancien dignitaire du régime qui est déchu et emprisonné puisqu'il a assassiné sa femme la surprenant en plein délit d'adultère. Donc elle vit avec son frère Pablo qui lui est un petit magouilleur qui profite de tout et du moindre dollar qui passe puisqu'il magouille beaucoup apparemment avec des étrangers. Par hasard, du moins semble-t-il, un couple de Canadiens, un peu paumés dans La Havane, vient se désaltérer chez elle et lui propose tout de go de les inviter le soir même dans un restaurant typique. Elena connaît pas grand-chose, elle demande à Pablo, et Pablo les emmène dans un restaurant clandestin où les étrangers peuvent dépenser beaucoup de dollars à manger et surtout à boire, en particulier les fameux mojitos. La soirée enchante le frangin, mais déçoit beaucoup Elena, qui, elle, ne se laisse pas du tout éblouir par l'argent facile. Le lendemain, on retrouve le cadavre de Pablo. C'est le capitaine Trujillo. Excusez-moi.
Trio.
Voilà, Trujillo. Oui, c'est ça. Donc, je rappelle à vous, parce que moi, je ne sais pas prononcer. Donc, ce fameux capitaine, qui est chargé de l'enquête, et après avoir perquisitionné dans la chambre de Pablo, il se tourne vers un réseau pornographique local. Mais le problème, c'est que les touristes canadiens, qui sont tout simplement... Tous eux reviennent. Quoi ? De nouveau rendent-ils visite à Elena ? Pas vraiment pour lui présenter, mais plutôt pour lui proposer un marché. Mais pour cela, Elena doit s'expatrier et partir aux États-Unis, au Canada avec eux. Malgré sa vie plutôt pauvre et sa vie difficile, elle hésite quand même beaucoup à quitter ses attaches, souvenirs, et aussi un petit peu, elle hésite à s'éloigner de son père. Quand elle va se décider, le capitaine va la soupçonner et il sera peut-être trop tard pour s'exiler. Et là, c'est toute la deuxième partie du roman. C'est un thriller qui est très, très efficace et qui cache bien son jeu au début. Il y a une première partie où l'auteur installe tranquillement ses personnages dans la capitale cubaine et nous raconte, tu connais bien, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y est né et il y a vécu pendant un demi-siècle. Il montre la vie quotidienne des Cubains pendant... en vrac, il montre la vie quotidienne des Cubains, en vrac, lorsqu'on annonce un produit qui arrive, les rations de chiens, anecdote, alors le chien c'est les personnes qui espionnent leur immeuble, et donc surtout ses habitants, pour dénoncer toute déviance au régime. Bref, on va vivre Cuba et La Havane à l'heure actuelle. Mais l'auteur ne prend pas, c'est pas une vision totalement manichéenne, puisque l'auteur raconte les joies simples, la solidarité, et il faut le dire, en dehors des joies simples, une joie de vivre des habitants de l'île. Et dans une deuxième partie, nettement plus haletante et nettement plus trépidante, l'auteur nous emmène sur les traces d'Elena et de Marina, qui est toujours d'ailleurs la Canadienne, fuit devant la police locale et quelques truands après le forfait que je ne dévoilerai pas. Elles ne sont pas innocentes, c'est sûr, loin s'en faut, mais José Latour, l'écrivain, est très très habile, parce que en fait, au fur et à mesure, le cœur du lecteur, il bat pour elle, vouloir qu'à tout prix, elle quitte l'île et échappe au capitaine, alors que la morale voudrait que nous voudrions à tout prix que les flics les rattrapent, et les arrêtent pour le forfait commis. Ben, on a une petite tendresse pour ces deux femmes, pour des raisons totalement différentes. On n'a qu'une envie, c'est qu'elles puissent finalement de l'île cubaine. On ne sait pas, vont-elles y arriver ? Il faut lire le livre. Donc, je répète le nom du livre, ça s'appelle « Nos amis de la Havane », l'auteur José Latour, aux éditions du Rocher. Alors, thriller encore imposant, puisque de plus de 300 pages, il y a de la matière. Et je vous dis, si, je prie, 20,90€.
Et c'est traduit de l'anglais, en fait. Moi, je pensais que c'était traduit de l'anglais, en fait. Moi, je pensais que c'était traduit de l'espagnol.
Traduit de l'anglais.
Il a écrit en anglais, parce qu'en fait, il vit aux États-Unis maintenant.
Merci de me le rappeler. On va préciser la traduction. Marie-Olivier qui a traduit ce roman. Tour, en fait, il est maintenant aux États-Unis. Voilà. Voilà. En route pour une prochaine émission. À bientôt.
Bonne soirée.
Bonsoir.